Bon bah bonjour et bienvenue. Donc je vais vous présenter un livre philosophique, en toute logique, qui s'appelle Les passions et les intérêts, qui a été écrit par Albert Hirschman. Il est publié aux éditions PUF ou PUF, je ne sais pas vraiment comment ça se dit. Donc dans cette œuvre, Hirschman, il part de deux constatations. D'abord, il constate que la science sociale de notre temps n'est pas parvenue à élucider la question des conséquences politiques de la croissance économique. Et dans un second temps, il constate que ces conséquences, donc de la croissance économique, elles sont très souvent désastreuses, quel que soit le régime qui préside à la croissance. Quel que soit le régime, c'est-à-dire si c'est un régime capitaliste, socialiste ou même mixte. Donc, par ces deux constatations, Hirschman, il va se replonger dans toute l'histoire de l'idéologie capitaliste et finalement se poser la question que personne n'a pu élucider d'après lui, qui est quelles sont les conséquences de la croissance économique sur la politique actuelle et même la politique à l'époque. Donc il va vraiment montrer, remontrer, démontrer les origines de cette croissance économique, d'où vient-elle, puis ses conséquences, et enfin il va nous montrer, enfin il va faire une réflexion personnelle sur ce chapitre de l'histoire des idées. Donc là je vous ai à peu près délimité les trois parties. Donc finalement dans la première grande partie de de cette œuvre, qui s'appelle, je cite, Comment pour combattre les passions, on fera appel aux intérêts. Il va remonter vraiment très loin dans l'histoire des idées et il va se rendre compte que la croissance économique, elle vient du fait, elle vient de ce moment dans l'histoire des idées où l'on s'est demandé qu'est-ce que l'on va faire de toutes les passions humaines. Ces passions qui sont plutôt qui ont un côté péjoratif, je dirais. Et donc finalement, dans cette première partie, Hirschman fait vraiment le lien entre les passions et la croissance économique. C'est-à-dire qu'il va montrer en quoi l'évolution de notre capacité à comprendre nos passions, à les mettre en valeur, va engendrer justement une croissance économique. Alors, tout au long de sa première partie, il va citer de grands philosophes comme Machiavel, sur lequel il passe un bon bout de temps, mais aussi Hume ou encore Saint-Augustin, qui lui est bien plus avant. Et donc, à travers ces philosophes et ces siècles, je dirais du 15e siècle avec Saint-Augustin jusqu'au 17 ou 18e siècle, il va montrer l'évolution des passions. Et comment justement les intérêts vont avoir une place vraiment centrale dans l'expansion économique. Mais j'avoue que cette partie est très très dense et que si je commence à vous expliquer en détail toute cette évolution des passions, ça va prendre vraiment plus que 5 minutes. Donc je vais faire très court. On part d'un principe, c'est que les passions, comme je l'ai dit précédemment, sont péjoratives, elles nous détruisent, nous les hommes. Et donc, en fait, Machiavel va tout simplement émettre une hypothèse qui est que il y a plusieurs types de passions. Il y a des passions compensatrices de d'autres. Et Hume va très bien reprendre cette idée en disant: Rien ne peut contrarier ou freiner l'élan de la passion qu'un élan contraire. C'est-à-dire qu'on ne peut que combattre la passion par la passion. Et donc, ces passions compensatrices, donc, qui seraient quelque peu moins mauvaises que les autres, comme ils prennent d'ailleurs l'exemple de l'avarice, elles vont être plus tard appelées des intérêts. Et c'est de là, finalement, que vient le mot intérêt. On combat des passions par des intérêts. Et encore, Hirschman explique d'ailleurs encore plus ce lien entre la passion et les intérêts et l'expansion économique, c'est que rien que le mot intérêt a changé du tout au tout, parce que maintenant on utilise le mot intérêt surtout pour définir des intérêts financiers, un gain quelque part d'une somme d'argent ou de quelque chose comme ça, quelque chose de très économique finalement. Donc, maintenant que ça fait déjà 5 minutes, je vais passer à la deuxième partie. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, même si c'est la plus intéressante, je trouve. Donc, il va, comme je l'avais dit précédemment, il va montrer comment l'expansion économique sera censée contribuer au progrès politique. Donc là, il y a deux sous-parties. Enfin, il y en a plus, mais je les ai un peu remodelées pour faire deux sous-parties. Donc d'abord, il y a deux doctrines qui s'imposent. C'est celle de Montesquieu et Stuart. Je crois que c'est un sociologue ou philosophe anglais. Bon, leurs deux doctrines sont légèrement différentes, mais elles se rejoignent sur un point. C'est que l'expansion économique, elle affaiblit le pouvoir du prince. Donc le prince, c'est celui qui dirige, c'est le souverain. Et donc ça met fin aux décisions complètement arbitraires de ce souverain. Ce modèle, Hirschman l'appelle le modèle de dissuasion. C'est-à-dire que l'avarice des princes, donc qui est une passion finalement, mais qui se retrouve être un intérêt, elle entraîne une volonté de gagner, logiquement, beaucoup d'argent, de s'enrichir. Sauf que les marchands dans tout cela s'enrichissent également et donc ils gagnent de l'influence, ils gagnent du pouvoir et donc c'est du pouvoir que le prince n'a plus. Donc je vais vous lire un extrait de Stuart qui exprime très bien ça. Le commerce et l'industrie, dis-je, doivent leur établissement à l'ambition des princes, principalement dans la vue de s'enrichir et par là devenir redoutables à leurs voisins. Mais ils n'ont pas reconnu jusqu'à ce que l'expérience le leur est appris, que les richesses qu'ils tiraient de ces sources n'en étaient que la partie surabondante, et qu'un peuple riche, courageux et énergique, ayant entre ses mains les fonds de la richesse du souverain, peut, quand il le veut, fortement secouer les joues de son autorité. La conséquence de ce changement a été l'introduction d'un plan d'administration plus douce et plus régulière. Donc on peut donc voir. Donc Stuart le dit brillamment que finalement l'expansion économique adoucit les souverains et donc ce serait la principale conséquence politique de l'expansion économique selon le modèle de dissuasion de Montesquieu-Stuart. À cela s'oppose une autre doctrine, celle de Millard, qui est légèrement différente. Je vous laisserai la découvrir parce que là vraiment ça prend trop de temps. Donc, ensuite, Hirschman, il va exposer les contestations. Il y en a deux. La première, c'est celle des physiocrates. Bon, globalement, eux, ce qu'ils disent, c'est que comme les intérêts publics, en fait, que l'expansion économique, elle ne peut que fonctionner dans un système de monarchie. Parce que les intérêts publics sont également les intérêts privés du prince. Donc, il est dans son intérêt de favoriser l'expansion économique. Alors que dans une démocratie, ces deux intérêts publics et privés sont séparés. Donc l'intérêt du prince de favoriser l'expansion économique est moindre, finalement. D'un autre côté, la contestation sur laquelle Hirschman insiste vraiment le plus et il passe le plus de temps, et donc, parce que finalement, c'est une contestation qui est vraiment sur tous les plans, c'est celle de Adam Smith, donc un anglais, Smith, je vais dire Smith. Adam Smith, lui, il conteste vraiment même le principal fondement qui est le fait le fait des passions compensatrices. Vraiment, il conteste même ce fondamental-là de l'expansion économique. Donc, lui, il va dire que, en fait, le déclin du pouvoir abusif du prince Elle est due au fait qu'ils auraient, sans le vouloir, je cite, renoncé aux prérogatives à mesure qu'il cherchait à profiter du progrès des arts, qui lui-même, donc ce progrès des arts, ça fait référence à l'expansion économique, puisque c'est des biens matériels. Donc finalement, Smith, lui, dans une partie de son raisonnement, il dit que ce n'est pas le fait que le peuple s'enrichisse qui enlève du pouvoir au souverain, au prince, mais c'est le fait que le prince s'intéresse davantage à de petites choses pour améliorer son quotidien plutôt qu'à gouverner son peuple, et donc il va forcément perdre de l'influence et il va s'adoucir, il va être moins abusif, son pouvoir va être moins abusif. Et dans une autre partie, Smith, il va aller encore plus loin, puisqu'il va dire que ce sont nos passions comme la soif de reconnaissance ou le pouvoir qui ont conduit à l'expansion économique. Donc lui, il part du principe qu'il n'y a pas d'intérêt, puisque jusque-là, Montesquieu, Stuart et tout ça, eux, ils ont toujours dit que c'était les intérêts. C'était le fait de suivre ses intérêts, donc les passions compensatrices, qui permettaient de l'expansion économique. Or, Smith dit que c'est des passions comme la soif de reconnaissance et la soif de pouvoir qui conduisent à cette expansion économique. Il dit en effet que cette expansion économique, elle induit une amélioration des conditions matérielles. Donc, je traduis en langage courant, ça veut dire qu'on a plus de choses, de babioles, etc. Finalement, cette condition matérielle améliorée, c'est la seule qui peut assouvir cette soif de reconnaissance. C'est-à-dire que plus, par exemple, je prends l'exemple au lycée, c'est très bateau. On peut être davantage envieux de quelqu'un qui est très bien habillé, qui a le sac de nos rêves, désolé pour les garçons, plutôt que de quelqu'un qui est comme tout le monde finalement. Et c'est là que, enfin, c'est ce que veut dire finalement Smith en disant que ce sont nos passions qui ont conduit à l'expansion économique. C'est notre soif de reconnaissance finalement. Bon, ça fait déjà 12 minutes que je parle, donc je vais passer très vite à la troisième partie, mais de toute façon, elle est assez courte. Mais elle est divisée en trois parties. D'abord, il commence par expliquer en quoi la doctrine de Montesquieu et de Stuart est fausse. Il utilise un exemple d'un argument de Tocqueville, que je vais vous lire, qui dure 3 lignes, ne vous en faites pas, c'est bientôt fini. Si les citoyens se laissent absorber par leurs affaires et leurs intérêts particuliers, ils créent une situation qui permettra à un ambitieux habile de s'emparer du pouvoir. Donc là, Tocqueville, franchement, prédit l'avenir avec Napoléon. Donc finalement, Hirschman montre que, contrairement à ce que Montesquieu et Stuart disent, l'expansion économique ne mène pas toujours à un adoucissement du pouvoir abusif des princes. Donc, dans sa deuxième partie, Hirschman, il va montrer en quoi sa thèse sur l'origine des idées capitalistes et vraiment toute l'origine de l'expansion économique s'oppose à celle de Weber, un économiste et sociologue allemand. Donc cette partie-là, je vous laisse la lire parce qu'elle est très intéressante. Comme tout le livre, finalement. Et donc dans sa troisième partie, Hirschman fait vraiment une réflexion sur le capitalisme contemporain et il finit par conclure sur cette partie en disant que pour émettre un éloge ou une critique du capitalisme et de cette expansion économique et de la volonté d'une expansion économique vraiment assez poussée, il faut comprendre d'abord les origines du capitalisme. Et voilà, donc je suis désolée, ça dure très longtemps, mais je l'ai refait au moins 6 fois et j'arrive pas à faire moins long. Donc j'espère que c'est assez clair et j'espère que je vous aurai donné envie de lire le livre parce qu'il est vraiment bien. Moi qui lis pas énormément. J'ai vraiment lu ces 120 pages en une semaine. Je lis très très lentement, il faut le savoir. Donc vraiment, c'est un super bon livre et c'est très bien expliqué. J'ai compris alors que c'est quand même un sujet très compliqué et Hirschman arrive à le rendre, à le simplifier tout en explorant toute la complexité du sujet. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.